Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Les Rescapés, le podcast qui vous parle de ces gens qui ont vécu une déflagration dans leur vie, qui a signé la fin de leur vie d'avant et conditionné leur destin. Nos témoins sont des survivants. Ils auraient pu sombrer, mais la fracture qu'ils ont vécue a parfois donné du sens à leur vie ou révélé une partie d'eux-mêmes qui serait certainement restée endormie. Aussi difficile que fut l'épreuve, ils sont parvenus à voir la vie d'un œil neuf. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, celle qu'on vit. Parce qu'on ne peut rien contre les épreuves. Comment gérer l'après? Comment vivre cette renaissance pour qu'elle ne soit pas une petite mort? N'oubliez pas, la vie a toujours plus d'imagination que nous.
Je m'appelle Pierre, j'avais 25 ans, je vivais une vie complètement insouciante d'amour et d'eau fraîche. Et depuis le 13 novembre 2015, je suis rescapé. Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans. Je vis la vie que tout jeune Parisien peut vivre avec ses amis, sa famille. On va prendre des bières, on va profiter, on fait des concerts, on sort, on va au restaurant. À ce moment-là, moi, je suis commercial dans une société qui vend du fromage. Donc, je parcours les routes de Normandie pour aller vendre des reblochons. Donc, c'est pas forcément très facile. Je fais pas mal de routes, mais la vie est simple et j'en profite à fond. J'habite à Paris, j'ai pas mal de copains. Ça fait 2 ans qu'on est sortis d'école quand je suis dans ce job. On se voit régulièrement, on se rappelle les bons souvenirs et la vie bat son plein. Et à ce moment-là, je suis pas sûr de me poser beaucoup de questions sur mon avenir. Je pense que c'est un peu la jeunesse insouciante encore à cette époque-là. Et en fait, il y a plus une vision à très court terme, à quelques mois, où est-ce qu'on part en vacances, où est-ce qu'on va passer le week-end avec les copains. Et voilà, je me pose pas trop de questions. Ouais. À cette époque-là, je suis célibataire et en fait, je suis invité à un mariage d'un copain d'école. Et en fait, on se voit pas souvent, mais on était assez proches pendant nos années d'études. Et du coup, on se retrouve avec quelques copains à être invités là-bas. Donc, ça se passe à côté de Mâcon. Et en fait, quand on arrive sur place, il fait très chaud, mais on s'amuse bien. Et au dîner, en fait, je me retrouve assis à une table du coup de copains d'école. Et à côté de moi, il y a Myriam. Et ça, c'est la première fois que je rencontre Myriam, donc je lui demande un peu d'où elle vient, etc. Et en fait, je me rends compte qu'elle a fait la même école que moi, sans qu'on se soit jamais rencontrés, donc pendant ses 5 ans d'études. Et donc là, c'est 2 ans plus tard, première rencontre. Et en fait, c'est un peu le... Je sais pas si c'est un coup de foudre, mais en tout cas, ça matche très bien. Et on apprendra plus tard qu'ils nous avaient assis l'un à côté de l'autre, pas forcément par hasard. Ça, c'est le 13 juin 2015. Et en fait, à ce moment-là, c'est toujours un peu ce truc de qui envoie le premier message juste après pour pas faire celui qui a vraiment envie. Et en fait, que derrière, c'était juste sympa un soir. Et puis voilà. Et en fait, je lui envoie un message, je crois, le lendemain. Et on se revoit le 17 juin. Et en fait, le 17 juin, on se met ensemble. Donc, c'est assez rapide, 4 jours après. Et c'est une très belle histoire qui commence, ouais. La vie avec Myriam se passe plutôt très bien. En fait, tout match assez facilement. Je rencontre ses copains, elle rencontre les miens. Et donc, tout ça se fait pendant l'été 2015 tranquillement. On se demande un peu si on a un peu envie de partir en vacances ensemble. Elle partait en Indonésie avec une copine pendant l'été. Et en fait, en octobre, on décide de partir 4 jours à Venise. Donc, le petit cliché, dès le départ, comme ça, ça s'est fait. Et voilà, et on passe 4 jours géniaux là-bas. Et oui, on ne se pose pas trop de questions, mais on sait que ça marche bien ensemble. Oui. On est chacun dans notre appart, on passe beaucoup de temps chez l'un chez l'autre, évidemment. Pour l'instant, chacun chez soi, et on verra si on emménage ensemble un peu plus tard. Il se trouve que, en fait, en mai-juin 2015, j'avais vu un concert des Eagles of Death Metal au Trianon. Ce concert-là, c'était vraiment super bien passé. Je suis avec un copain à cette époque-là, à ce concert-là. Et en fait, je vois 2 mois plus tard qu'en fait, ils reviennent pour un nouvel album pour faire une tournée à Paris. Et cette tournée qui passe par Paris, le concert sera le 13 novembre 2015 au Bataclan. Et je prends immédiatement des places, vu que c'est un groupe qui est un peu foufou, rock'n'roll, drôle, etc. Donc c'est à chaque fois de bonnes ambiances. Je propose à Saoud et à François, donc deux copains, et Saoud étant mon coloc, d'y aller. Je propose aussi à Myriam, du coup, et Myriam me dit non, après elle va écouter quelques chansons, non, je te laisse y aller avec eux, et on se retrouvera après. Ce jour du 13 novembre, je sais plus si on était chez moi, je me réveille, je vais bosser, mes journées sont assez courtes avec ce boulot, et du coup, j'en profite pour me balader tranquille, et en fait, je retrouve Saoud et François devant la salle, il doit être 18h45, 19h, quelque chose comme ça. Je me souviens de l'entrée dans la salle. En fait, avant de rentrer dans la salle, dans le Bataclan, en fait, à l'extérieur, il y avait le bus de l'équipe des chanteurs. Et du coup, à ce moment-là, il sort, et, etc. Je vais le voir et je lui dis merci et tout ça. On se fait un hug à l'américaine. Donc, c'était marrant. Et puis après, on décide de rentrer et d'aller se prendre une bière à l'intérieur de la salle. Ça met un peu de temps à démarrer. La première partie passe. Et ensuite, il y a un long moment d'attente avant que le concert ne commence vraiment. Après, je sais qu'on se marrait bien, le concert battait son plein et puis ils sont rentrés. Et ensuite, c'est là où moi j'ai une perte un petit peu de notion de temps, etc. Mais je sais qu'à un moment, j'entends comme des ballons qui éclatent. Ça vient du fond de la salle. Nous, à ce moment-là, on était dans la fosse, donc on s'est rapproché un petit peu plus de la scène. Donc on était plus proche de la scène que de la porte d'entrée. Donc on entend juste ces bruits au fond, on comprend pas très bien ce qui se passe. Et en fait, oui, il a fallu quelques secondes pour que je sois touché, juste après, en fait, que les terroristes soient rentrés dans la salle, oui. À ce moment-là, moi, je me suis touché, donc, je sais pas où, je sais que j'ai une grande douleur qui me traverse le corps. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que je tombe par terre. Mais après, il y a un petit moment de flou, où je sais absolument pas ce qui s'est passé. Je rouvre les yeux, Saoud essaye de me tirer par le bras pour m'extirper de l'endroit où j'étais et qu'on puisse sortir de là. Mais je comprends pas du tout l'enjeu et ce qui se passe. Je lui dis juste de partir. Et en fait, à ce moment-là, du coup, moi, mon cerveau s'éteint. Et en fait, j'ai un blackout, du coup, qui va durer le temps de l'attaque. Donc, les 10 minutes qu'il a fallu aux terroristes pour faire leur affaire, on va dire. Et je me réveille au moment où la BAC tue le terroriste qui est en bas dans la fosse. Les deux autres sont déjà avec les otages à l'étage. Je me réveille juste avant d'ouvrir les yeux. En fait, mon cerveau m'envoie un message pour me dire « tu ne remarcheras plus ». Juste avant que j'ouvre les yeux, je crois que je suis assis un peu en chandelle, donc les jambes en l'air, etc. Et quand j'ouvre les yeux, en fait, mes jambes sont complètement allongées et j'arrive pas à les bouger. Et ensuite, j'essaye de bouger mon bras gauche et en fait, mon bras gauche me fait très mal. Donc, je sais pas ce qu'il a, je sais qu'il y a du sang, etc. Mais je sais pas quelle est l'ampleur des dégâts. Et en fait, je sens mon téléphone qui vibre dans ma poche, mais je peux pas aller le chercher. Et j'essaye de peu bouger et en fait, je me rends compte en tournant la tête un petit peu pour voir ce qui se passe que François est à côté de moi. Il est allongé sur le ventre, il me regarde pas et en fait lui du coup il ne bouge pas du tout, il me gratouille le cou pour me dire je suis là, t'inquiète pas. Mais il sait pas non plus la douleur que j'ai ou ce qui m'est arrivé quand je me réveille. Saoud est plus là, je sais pas où il est, je sais pas ce qui lui est arrivé. Et du coup oui, il y a ce moment où sont les mecs, en fait on sait pas où sont les mecs, il y a une grosse attente. Je sais qu'il y a eu quand l'autre s'est fait tirer dessus, il s'est fait exploser, donc au moins celui-là n'est plus là. Bon, on sait pas s'il y en a pas un autre qui traîne et qui peut faire n'importe quoi. Bah, je tourne la tête dans tous les sens pour voir ce que je peux voir. Encore aujourd'hui, j'ai pas de souvenir, je n'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'ai pas d'odeur, j'ai pas de vision, j'ai pas le goût du sang, machin, etc. Tout ça a disparu. Le cerveau a très bien fonctionné pour ça. Et donc on touche du bois pour que ça ne revienne pas jamais. Mais bon, ça on verra plus tard, mais pour l'instant, il y a rien qui n'est remonté sur ce sujet-là. Ouais. Comme mon cerveau m'envoie ce message de « je ne remarcherai plus », je sais pas comment est-ce que ça s'est passé. Est-ce que c'est un instinct de survie naturel qui s'est fait et psychique pour se dire « ben voilà, maintenant que tu sais ça, arrête de te secouer pour faire bouger tes jambes et concentre-toi sur rester en vie ». Et je pense qu'il y a grandement de ça et même les médecins peuvent pas l'expliquer en fait ce qui s'est passé. Mais c'est plus cette première étape de « au moins mon cerveau me le dit » avant qu'évidemment on espère toujours que ça va revenir et que les médecins confirment le diagnostic. Mais au moins, il y a eu cette première étape qui, je pense, a énormément joué sur la suite. Ouais. Quand je me réveille, je pense que je reste une heure et demie, peut-être deux heures dans la salle. En fait, là, le temps est un peu flou aussi parce que j'ai pas de montre, j'ai pas tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, la BAC est entrée pour le tuer. Là, on attend. Pendant ce temps-là, il y a tout qui se met en place à l'extérieur, en fait, et nous, on voit rien et on n'est pas vraiment tenu au courant de ce qui se passe pour pas que les terroristes restants n'aient trop d'informations, je pense. Donc, au bout d'une heure et demie, il y a des échanges de numéros de téléphone avec les terroristes, etc. Ils essayent de faire quelque chose avec ceux qui tiennent les otages. Et ensuite, il y a des médecins qui commencent à rentrer dans la salle avec la BRI, avec pas mal de gens casqués, cagoulés. Ils font sortir les valides, ceux qui ne sont pas blessés, ceux qui peuvent sortir, ils les font évacuer, de manière à vraiment voir l'étendue des dégâts, qui est mort, qui peut encore bouger, qui en est où. François est resté avec moi, voilà, clairement il fait le mort, parce qu'apparemment du coup le terroriste qui était resté en bas tirait à bout portant sur tout ce qui bougeait, donc clairement il valait mieux pas trop bouger, c'est ce que François m'a dit de faire aussi, parce que je bougeais un peu la tête dans tous les sens, donc il m'a dit essaye de pas bouger, de fermer les yeux, etc. Après il a dû partir, et en fait il avait aussi ce petit sentiment de bah, je laisse mon pote, c'est pas forcément génial pour lui non plus ce moment-là. Ouais. Mais lui et Saoud ont tout vu en fait, j'apprendrai après, du coup Saoud lui a réussi à partir, en passant à quatre pattes sur la Seine et en sortant par l'issue de secours pour aller se réfugier dans un des appartements à côté. Non, mais ils ont tout vu, tout entendu. Je suis content de pas être tout seul, clairement, à ce moment-là. Le fait de savoir qu'il est là rassure quand même. On peut parler un tout petit peu, il y a ce côté-là, et même si on se dit pas grand-chose. Et puis, en fait, ce qui me permet de tenir beaucoup, c'est de penser à Myriam tout le temps. En fait, je pense qu'à elle pendant tout ce moment-là. Enfin, toutes mes pensées vont vers elle, et le fait que je puisse pas la prévenir, en fait, que pour l'instant, je suis en vie. Je pense peu à ma famille et je pense plus à elle à ce moment-là. Ouais. Ce qui me peine le plus, c'est de me dire que je vais jamais la revoir et que ça puisse s'arrêter si vite. Ouais. Le fait de penser à elle m'a tenu en vie. Il y a un autre truc qui m'a aidé aussi, c'est quand François part, en fait, à côté de moi, il y a un autre couple. La meuf est valide et donc doit partir aussi et son mec est blessé. Et en fait, elle met sa main dans la mienne au moment où ils partent, François et elle. Et en fait, c'est lui qui m'a tenu éveillé en fait sur une bonne partie de la soirée jusqu'à ce que la BRI, les médecins arrivent. Et c'est lui qui les a orientés vers moi en disant « il est bien blessé, enfin il faut l'emmener, etc. » Donc il y a une vraie aide. Celui qui me tient la main, et lui, il est blessé, je crois, à la jambe. On se parle très peu et il se rend compte qu'il faut me tenir éveillé plus qu'autre chose. Et du coup, il me serre la main toutes les 30 secondes, je crois. C'est ça qui, clairement, m'a aidé factuellement à m'en sortir. Quoi. Parce que certes, la pensée de Myriam aide beaucoup, mais ça n'aide pas forcément à rester éveillé. Quand les médecins rentrent, il y a quelqu'un de la BRI qui se met au-dessus de ma tête et qui me pose des questions. En me demandant qu'est-ce que t'as, où est-ce que t'as mal, et en fait je leur dis que je peux plus bouger mes jambes, que j'ai très mal au bras, et en fait ils me font sortir assez vite. J'avais l'impression d'être sur une barrière, mais peut-être que c'était un brancard, enfin juste une planche, mais en sortant en fait je vois pas mal de gens qui sont sur les côtés, qui attendent aussi, donc je suis pas dans les derniers à sortir. Je suis posé par terre dans la rue à côté d'un camion de pompiers, j'ai assez froid du coup avec la perte de sang, etc. Et donc on me donne une couverture de survie, ensuite on me met dans un camion de pompiers. Je me souviens pas forcément de la douleur que j'ai, mais à ce moment-là, je sais que le bras me fait très mal. J'ai l'impression que j'ai pas perdu beaucoup de sang par rapport à ce que j'ai à côté de moi. Et en fait, j'ai perdu 2,5 litres. En fait, j'avais une hémorragie interne. Clairement, c'était pas ouf. Et en fait, je me dis, bon, ben, ça va peut-être y aller. Je relativise beaucoup. Et ce camion de pompiers, il y en a d'autres qui sont mis dedans. Et ensuite, il y a des hôpitaux de fortune qui sont montés un petit peu partout dans le quartier. Donc, on me transfère là. Et quand on me transfère, je sais pas exactement ce qu'ils font comme diagnostic, mais en tout cas, je pense qu'ils se rendent compte très vite que j'ai un problème au niveau de la moelle épinière, au niveau du dos. Et du coup, en fait, ils me font envoyer en ambulance seul à Mondor, donc Henri de Mondor, qui est l'hôpital à Créteil. Le camion d'ambulance dans lequel je suis, il y a un conducteur, le deuxième ambulancier est à côté de moi et il regarde par la fenêtre qui est derrière le conducteur vers l'avant. Il me tient éveillé. Je me souviens des sirènes, qu'on allait à toute vitesse et que Paris devait être vide. En fait, je me souviens de tout vraiment jusqu'à la table d'opération. Ouais. Et en fait, quand j'arrive là-bas, le seul souvenir que j'ai, c'est les lumières qui sont dans le couloir quand on m'emmène vers la salle d'opération et d'entendre l'anesthésiste qui me dit « tu peux compter pour t'endormir ». Et du coup, je me réveille, j'ai eu deux opérations. Pendant 4 jours, j'étais en réanimation, intubé, de manière à pouvoir prendre un peu de bol de la bête. Au bout de 4 jours, je suis extubé et on me remonte dans un service un peu plus normal. J'ai moins besoin d'être sous morphine, etc. Les médecins me parlent peu. Le cardiaque qui m'a opéré le premier, lui, je l'ai vu que le dernier jour, à la fin de mon hospitalisation à Mondor, donc au bout de 15 jours, en fait, il était aussi en état de choc de tout ce qu'il avait vu dans la soirée. Il n'avait jamais opéré des jeunes blessés par balles de armes de guerre. Il m'a dit, bon, en fait, oui, je ne savais pas quoi venir vous dire après vous avoir opéré. Je pense qu'à un moment, un des médecins, notamment le médecin orthopédique qui m'a posé l'armature métallique dans le dos, clairement, lui, je pense qu'à un moment, il est venu me dire ce qu'il y avait, mais je me souviens plus exactement du moment. Le choc est là, et clairement, le côté espoir, ça me nuise, parce que normalement, quand on a une blessure à la moelle épinière, s'il y a quelque chose qui peut revenir, ça revient assez vite. En fait, il y a un petit doigt de pied qui va bouger, etc. Et chez moi, il n'y a rien du tout qui bouge, du coup, l'espoir est faible. Les médecins clairement me disent vous ne remarcherez pas. Enfin, je me souviens de 3 passages devant des médecins au fur et à mesure de la rééducation aussi, ou en voyant la neurologue qui me confirme ça un peu sèchement. En effet, quand on a 25 ans, se faire confirmer ah ben oui, là c'est fini, ça fait un peu mal. Le diagnostic est assez simple. En fait, j'ai reçu une balle qui est passée par le bras au niveau de l'omoplate. Donc l'omoplate a été complètement éclatée en 1000 morceaux. Et comme les balles qu'ils utilisent sont des balles qui rebondissent un petit peu dès qu'elles touchent quelque chose, la balle a rebondi plusieurs fois à l'intérieur du corps, elle a abîmé mon poumon, et ensuite elle s'est logée entre les côtes juste après être passée par la moelle épinière. Et donc ça, elle est passée dans la moelle épinière au niveau des pectoraux, et en fait quand la moelle épinière est sectionnée, c'est tout ce qui est en dessous de la lésion qui ne peut plus fonctionner. Donc c'est au niveau moteur, donc c'est j'ai une paraplégie au niveau des jambes à partir de cet endroit-là, donc j'ai la paraplégie qui s'accompagne aussi d'une perte complète de sensibilité et de sensation. Donc je sens plus le chaud, le froid, et mes jambes du coup ne fonctionnent plus seules. Mais par contre, tout ce qui est système digestif, etc., le ventre, la faim, tout est là, et tout ça fonctionne en autonomie complète. Le fait d'être avec un entourage très fort, d'avoir Myriam, la famille, les copains qui sont présents tout le temps depuis le premier jour, en fait, ça aide beaucoup à passer à autre chose et à regarder vers l'avant. Oui. La première fois que je vois la famille après les opérations, je crois que c'est entre deux sommeils, ça doit être le 14 novembre ou quelque chose comme ça. Je me souviens pas forcément avoir vu mes parents, mais il y avait quelques copains qui étaient là aussi. Et ensuite, le 15, du coup, là, c'est Myriam peut venir. Les gens qui viennent sont certes, il y a des larmes, etc., mais c'est des larmes plutôt de, je pense, de la joie de se dire bon, en fait, il est toujours là et on verra bien. Je fais une blague à Myriam dans le sens où moi je suis intubé, je suis entre deux sommeils et en fait j'ai une ardoise pour m'exprimer et je lui écris comme je peux parce que je vois pas très bien ce que je fais vu que je peux pas du tout bouger mon bras gauche. Je lui ai écrit alors je t'ai fait peur et clairement elle a un peu rigolé mais elle a beaucoup pleuré après. Et voilà, mais c'était au moins pour lui montrer que j'étais bien là. Quand elle a appris que j'allais être paraplégique, elle a assez vite fait la part des choses. Elle est très forte pour ça, mais elle a un peu tout classé dans sa tête de ce qui allait se passer, les différentes options. Et en fait, c'est le fait que côté psychologique, de mon côté, ça aille bien, fait que ça a grandement facilité sa prise de décision en disant « je suis pas là pour ses jambes » et voilà. Et ça s'est fait directement à Mondor. Je suis arrivé du coup aux Invalides le 30 novembre 2015 et je suis resté jusqu'en juillet 2016. Dans ce centre de rééducation, d'abord, il faut réparer l'omoplate. L'omoplate a été abîmée. Et pendant cette réparation, du coup, 45 jours sans bouger, je peux pas sortir de ma chambre. Il y a la famille qui passe, il y a les copains, etc. J'ai tendance à minimiser beaucoup le choc, etc. Inconsciemment, clairement, je pense que l'excitation du choc a duré jusqu'en février, jusqu'au moment où vraiment je pense que je suis sorti de ma chambre. Évidemment, dans la chambre, de temps en temps, au début, la porte claquait pendant la nuit avec le vent, et en fait, j'avais l'impression qu'il allait se passer un truc, etc., avec des rêves flous de ce qui avait pu se passer, puisque j'ai du coup rien vu. Le fait que cette porte claque est la seule chose qui m'a vraiment rembarqué dans un moment stressant et qui ne me rappelait même pas le Bataclan, c'était juste le côté évidemment post-traumatique. Mais en fait, c'est parti assez vite. Je pense que j'ai réussi à penser à autre chose et à ne plus penser à ça tous les jours parce que justement, tous les jours, il y a des proches, il y a la famille et c'est eux qui m'ont permis de tenir et permis d'avancer et de retrouver une vie normale avec la façon dont ils me regardent qui est exactement la même qu'avant. En fait, c'est pas parce que je suis en fauteuil que leur regard change et ça a vraiment aidé, oui. Il y a toujours ces histoires d'une personne qui passe en fauteuil et elle perd des copains, etc. Moi, j'en ai perdu aucun. Ils ont tous été là et en effet, le fauteuil était vraiment une annexe. Avec Myriam, ça se passe plutôt bien. Elle a réussi à négocier avec son job de pouvoir quitter à 16h tous les jours. Comme ça, elle a vraiment le temps de pouvoir être là. Et ensuite, quand j'arrive aux Invalides, en fait, on est tous dans des chambres individuelles. Myriam, elle peut être là tous les jours jusqu'à 23h. Et en plus, ils avaient des lits de camp qui nous prêtaient pour qu'elle puisse dormir là. Sans elle, ça aurait été beaucoup plus long. Et je sais pas si j'en serais là aujourd'hui, clairement. Je lui dis rapidement après les attentats que en fait si elle veut partir elle peut, je comprendrai, etc. Et elle m'a dit non mais en fait ne me repousse plus jamais cette question. C'est un vrai soulagement et ça permet à nouveau de se dire bah voilà, on peut se projeter tous les deux et avancer comme ça quoi. Clairement ça met une base sur un avenir ensemble. Donc ça c'est déjà très fort et puis après en fait le fait de pouvoir être tout le temps ensemble fait que bah en fait on apprend encore plus à se connaître, on se rend compte qu'on a beaucoup de choses en commun, on a vraiment envie de les partager pour l'après, donc c'est ça qui nous permet de tenir tous les deux parce que c'est pas facile non plus pour Myriam. Dans un centre de rééducation, quand on a une paraplégie, en fait on réapprend déjà à s'habiller, à faire sa toilette, comment ça se passe. On commence à tester quelques fauteuils roulants, voir ce qu'on a besoin en termes de taille. Ensuite, en kiné, ça va être pas mal d'apprentissage sur des tables un peu matelassées et d'apprendre justement à se déplacer avec ses jambes inertes. Donc, c'est commencer à renforcer ses bras. Ne pas oublier de déplacer ses jambes à chaque fois, sinon on perd l'appui. Quand on pose les pieds par terre devant soi, c'est plus pratique. Et après, c'est on apprend à faire du deux roues, donc pouvoir passer des trottoirs. On réapprend à conduire. On apprend à faire la cuisine. On réapprend à vivre et à pouvoir avoir une vie quotidienne à peu près normale quand on sort du centre. Oui. L'impulsion qui fait qu'on va pouvoir tourner la page et repartir de l'avant, c'est qu'en juin 2016, on réussit à avoir un appartement grâce à la mairie de Paris. Parce que nos appartements respectifs avec Myriam ne sont pas accessibles. En fait, la mairie de Paris nous a aidés à obtenir des logements sociaux pour la plupart des rescapés qui en avaient besoin. Le logement qu'on a eu était un logement, donc unité spécialisée adaptée, donc avec une salle de bain, avec douche à l'italienne, des barres d'appui pour pouvoir faciliter les transferts, des lavabos plus hauts. Et donc là-dessus, on a eu beaucoup de chance parce que ces appartements, clairement, normalement, quand une personne, entre guillemets, normale avec un handicap demande ce type de logement, il faut 4 ans d'attente. Donc on a eu beaucoup de chance sur ce plan-là. Et donc en juillet 2016, le 13 juillet, donc 8 mois tout pile après, je sors des Invalides et on emménage ensemble avec Myriam. Et donc on est très contents, l'été se passe très bien. Ayant mes bras aujourd'hui, j'ai la capacité de pouvoir tout faire seul. Et en fait, les aides de vie, etc., j'en ai pas besoin. Alors évidemment, à un moment, ça arrivera certainement. Enfin, je ne voulais absolument pas, et surtout pas Myriam, évidemment, qu'elle devienne mon aide attitrée, etc. Le fait d'être autonome et de pas avoir besoin de quelqu'un qui vienne tous les jours pour m'aider, clairement, ça nous permet d'avoir une vie normale de couple et de vivre simplement et sereinement en fait notre vie à 25 ans. En octobre 2016, on va dans un restaurant Michelin avec Myriam. En fait, c'est là où je la demande en mariage. C'est très drôle. Pendant le repas, je sais pas trop quand sortir la bague, je sais pas à quel moment on va avoir un break dans le menu. Et en fait, à un moment, j'ai l'impression qu'il y en a un. Je sors la petite boîte, je la pose sur la table. En fait, à ce moment-là, il y a un plat surprise qui arrive et c'est un des chefs qui sort de la cuisine et qui nous présente du coup un saumon qui est cuit sur du sel, enfin incroyable. Et en fait, au moment où il commence à nous parler, il voit la boîte sur la table. Et quand il voit la boîte sur la table, il a une petite goutte de sueur qui coule tout le long de son front en se disant « j'ai peut-être tout fait foirer ». Donc nous, on se regarde, on en rigole beaucoup parce qu'on sait très bien dans quelle position il est. Mais il se démonte pas, il termine et on mange rapidement. Et en fait, à partir de ce moment-là, du coup, après, j'ouvre la boîte et Myriam dit oui. C'est un moment très chouette. Ce petit moment, on s'en souviendra toujours avec ce petit cuisinier, d'être à trois comme ça au moment de la demande. C'était parfait. Le fait de faire une demande en mariage, d'organiser son mariage comme tout le monde, en se disant juste, il faut peut-être juste qu'il n'y ait pas trop de gravier dans la cour de là où on se marie, mais sinon voilà, le fauteuil est une option, et on a réussi au fur et à mesure à le prendre comme ça. On s'est marié juste au nord d'Aix-en-Provence, et on a fait la fête avec tous nos copains, nos familles, et ça a vraiment été un moment que nous, on voulait beau pour eux, pas que pour nous, dans le sens où on voulait les remercier de nous avoir accompagnés en fait autant depuis le Bataclan. Donc ça a vraiment été un moment aussi pour eux, pour que tout le monde profite et se dise, bah voilà, en fait, on avance. En
fait, au fur et à mesure qu'on avance, on a une reconstruction qui est quand même assez rapide parce que on a été bien entouré, parce qu'on a été bien accompagné par les bonnes personnes assez rapidement. Et on a fait des rencontres qui nous ont aidés à grandir plus vite dans le domaine du handicap pour tout ce qui est le matériel médical, comment, qu'est-ce qu'on emmène en voyage, etc. Je dis beaucoup « on », j'ai beaucoup de mal à dire « je » depuis ce moment-là, depuis qu'on est ensemble en fait avec Myriam, parce qu'en fait, comme on fait tout ensemble, on est très peu de fois seul, juste avec des copains de temps en temps. Et comme on fait tout ensemble, on voyage ensemble, on travaille ensemble, le « on » vient tout de suite en fait. Après les attentats, j'ai pas du tout repris mon job que j'avais avant de commercial. J'aurais pu avec la voiture si elle avait été adaptée, mais le fait de faire des transferts tous les jours, beaucoup, aurait pu me fatiguer beaucoup trop vite et j'avais pas du tout envie de ça. Et il se trouve que par opportunité, j'ai eu un entretien dans un groupe hôtelier. Ils m'orientent vers un poste dans l'équipe digitale. Et donc là, je découvre une nouvelle équipe et je commence ce job le 14 novembre 2016, donc un an et un jour après. Bah du coup, avec cet, un peu cet anniversaire, c'est en fait le Bataclan a été une parenthèse d'un an et la vie a repris en fait réellement un an après. Donc c'est très rapide et en fait le fait de découvrir toutes ces nouvelles têtes, toutes ces nouvelles personnes fait justement que eux aussi ne voient pas le handicap, ils voient plus moi et en fait ça aide énormément en plus à avancer très rapidement en fait. Ce qui se passe dans notre vie, à l'été 2017, on se dit avec Myriam, on va quand même repartir en voyage, ce serait pas mal de repartir un peu à l'aventure, et parce qu'on aimait vraiment ça tous les deux. Donc on part au Canada et on passe 3 semaines assez fatigantes dans ce pays, parce qu'en fait le handicap en voyage, on y connaît très peu de choses. C'est très mal référencé dans les guides, il n'y a aucune information, on trouve peu d'informations sur Internet non plus. Donc en fait, on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va y avoir des choses à faire une fois sur place? Et donc, on fait beaucoup de villes et on fait très peu de nature. Et donc ça nous frustre beaucoup parce que la nature, en fait, elle est omniprésente partout au Canada. Et dès qu'il y a une racine, on se dit, non, on va pas pouvoir y aller, ça va être trop compliqué. Du coup, on a bien arpenté les villes, mais on est quand même un peu déçus de notre voyage. Et en fait, il se trouve qu'en novembre 2017, je suis parti avec l'association Comme les Autres. Donc, il y a une association qui a été créée par Michael Jeremias et son frère et sa femme. Michael est ancien champion paralympique de tennis. Et lui, il a créé cette association dans l'optique de, justement, on va sortir les personnes blessées médulaires, donc paraplégiques. On va les sortir de leur cocon familial qui a un peu les entraver sur, justement, tout ce qui est activité, découverte de l'aventure et des sports, en fait. Et pendant ces séjours-là, les proches ne sont pas invités. Du coup, Myriam était évidemment très déçue. Et on est parti pendant une semaine à Marrakech. Et pendant cette semaine-là, en fait, le concept de l'association, c'est faire des sports à sensations fortes. Donc on a fait du kayak, de la tyrolienne, du tir à l'arc, du tennis et du quad. Et en fait, à ce moment-là, il y a un vrai déclic parce que entre chaque activité, ils nous apprennent à passer un trottoir, comment est-ce qu'on remonte d'une rampe qui est un peu trop raide, etc. Et en fait, cette association, du coup, elle m'a ouvert les yeux et avec ce que j'ai pu ramener d'expérience, ça a ouvert les yeux de Myriam aussi. Dans le sens où le handicap n'est pas un frein, il faut juste trouver les bons aménagements, les bons coéquipiers qui feront que on peut aller faire des activités en tout genre assez facilement, on peut partir en voyage, on peut prendre l'avion, on peut prendre le train. Et donc ça nous a un peu galvanisé dans le sens où en fait on n'est pas obligé d'amener une chaise de douche, on n'est pas obligé d'amener de surmatelas pour protéger le lit, pour éviter les blessures, etc. On a appris ça au fur et à mesure, évidemment, on n'a pas appris ça d'un coup, en lâchant tout le matériel, mais en essayant petit à petit de l'utiliser le moins possible et en voyant que ça marche. En fait, maintenant, on part juste avec 2 valises comme n'importe qui et on part en voyage comme ça. En fait, on est très léger aujourd'hui quand on voyage et donc c'est ce qui nous a permis, après notre mariage en mai 2018, de partir aux États-Unis sereinement. Alors évidemment, les États-Unis sont un pays hyper accessible, hyper aménagé, avec des portes automatiques partout, des rampes, des toilettes adaptées, des chambres adaptées dans les hôtels. Donc on se pose peu de questions quand on va aux États-Unis, quand on est en photo. Mais ça nous a libéré clairement l'esprit et on a redécouvert la nature ce jour-là. Ouais. Quand on quitte San Francisco avec Myriam, on se dit que voyager c'est quand même très chouette. Donc en effet, on a commencé à réfléchir à un projet de voyage. Comment est-ce que ça pourrait être un projet un petit peu qui apporte de l'information quand on est en fauteuil et qu'on veut voyager? On décide de créer Wild World, donc le monde sur des roues, qui est une association d'abord et qui deviendra une entreprise en 2021. L'objectif est de montrer à tous que le voyage est possible quand on est en fauteuil et quand on a le bon équipement, les bons coéquipiers et la bonne information. Et c'est pour ça qu'on crée un tour du monde, parce que l'idée du tour du monde, c'est d'avoir rapidement beaucoup de pays pour justement les mettre sur le blog et pouvoir renseigner toute l'accessibilité, parce que aujourd'hui sur notre blog, on écrit des articles de voyage, et sur ces articles de voyage, un valide peut les lire, mais un handicapé aussi, parce qu'on met toutes les informations d'accessibilité. Et à partir de ça, la personne peut se dire, bah voilà, moi je peux le faire, moi je peux pas le faire, j'ai une base pour me dire, bah voilà, ça c'est pour moi ou pas pour moi. Cette association, du coup, elle nous a permis de créer ce tour du monde. Et en fait, ce projet-là, il mûrit pendant l'été 2018 dans nos têtes. Comment est-ce qu'on a décidé de le fabriquer? Quel pays on a pris, etc. En fait, c'est tous les pays qu'on avait mis sur une liste quand on s'est rencontrés, qu'on voulait aller faire en vacances ensemble, qui évidemment n'étaient pas les plus accessibles. Donc quand je suis passé en fauteuil en 2016, on se disait bon, en fait on va aller tous les barrer, parce qu'en fait il y en a pas un seul qui va être accessible. Et quand on a créé le tour du monde, on s'est dit bon, on va tous les reprendre et on va aller dans tous ces pays là donc on avait 15 pays sur 14 mois avec Pérou, Bolivie, des pays qui font rêver tout le monde et qui sont de prime abord quand même très inaccessibles. On va chercher des partenaires qui vont pouvoir nous aider à financer le voyage, évidemment. Et en fait, à chaque fois, en contrepartie, on veut qu'il y ait qu'on laisse quelque chose, une trace. Et donc, le groupe hôtelier dans lequel je travaille est notre premier partenaire. Et en fait, c'est pour eux, à chaque fois qu'on va passer dans un de leurs hôtels, on va faire un diagnostic d'accessibilité qui va permettre à l'hôtel et au groupe de savoir où ils en sont sur l'accessibilité dans cet hôtel, notamment. Avec une note assez objective, de manière à savoir si tous les services sont adaptés, s'ils sont accessibles, et qu'est-ce qui peut être amélioré facilement pour pas trop cher, pour que n'importe qui puisse en profiter. Donc voilà, on fait ça avec chacun de nos partenaires, et l'idée est de partir le 2 septembre 2019. On est parti du coup pendant 7 mois, parce qu'on a été bloqué par le Covid au milieu, et on devait reprendre notre job en décembre 2020, après un an d'arrêt. Quand le Covid nous a bloqué, on s'est dit, ben, on va pas laisser ça comme ça pendant 6 mois jusqu'à ce qu'on retrouve notre job. Donc, on a pas mal voyagé en France. On a découvert qu'il y avait énormément de choses accessibles en France, que ce soit financièrement, où en fait, il y a énormément d'associations, de petites entreprises qui font des activités sportives, qui rendent accessible, c'est gratuit ou moitié prix pour les personnes en situation de handicap. Et donc, nous, on a voulu les mettre en avant à travers une série qui s'appelle Les Éclaireurs sur YouTube. On fait des rencontres, des immersions vraiment dans l'activité. Et en fait, notre communauté a adoré ce type de contenu et on s'est dit, mais en fait, on va pas s'arrêter là parce que si on reprend notre job, on pourra jamais continuer de voyager en même temps. Ce sera pas possible. Et du coup, on n'a pas repris notre job et en mars 2021, on a créé notre entreprise. Et depuis ce jour-là, en fait, on travaille avec des marques, que ce soit des groupes hôteliers, des établissements qui reçoivent du public ou des destinations touristiques, que ce soit départements, régions, offices nationaux. Et en fait, là, l'idée est de mettre en avant leurs initiatives inclusives à travers les pays. Et donc, on part en séjour, ça peut être 3 jours, 15 jours. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on va mettre en avant sur les réseaux sociaux et sur notre blog toutes les infrastructures, que ce soit activités, hébergement, les compagnies aériennes, comment est-ce qu'on prend le train en fauteuil, quel est le bon équipement à amener pour faire une rando. Tout ça, on le renseigne sur le blog de manière à ce que tout le monde se dise, ben voilà, comment est-ce que je peux avancer avec mon handicap pour repartir à l'aventure. Qui nous galvanise encore plus et qui nous pousse à continuer ce qu'on fait, c'est quand on reçoit justement des messages de membres de la communauté qui nous disent « Ah ben tiens, vous êtes parti en Allemagne, ça avait l'air super, j'ai déjà pris mes billets » ou « Mon père est en fauteuil depuis 25 ans, on est parti en skier et en fait, vu ce que vous avez fait vous en ski dans les Alpes, j'ai booké ça et on va y aller ensemble. » Donc c'est ça qui nous permet de nous dire « En fait, ce qu'on fait a du sens, a besoin d'être fait et c'est pour ça qu'on continue et que ça fonctionne aussi bien aujourd'hui. » Chaque continent qu'on va visiter est marqué par plein de petites activités un peu partout. Donc on a fait du kayak au pied d'un glacier en Argentine, on a nagé avec des otaries au Pérou, on est allé faire du surf dans les dunes de sable, quelques randos un petit peu partout. Et à chaque fois, à chaque continent, on s'est dit il nous faut un défi un peu plus marquant que les autres. Donc le premier défi, ça va être l'ascension du Machu Picchu. Comment est-ce qu'on arrive en haut d'un monument où il y a des milliers de marches ? C'était moins un défi que ce qu'on pensait, parce qu'on a pris un bus jusqu'en haut, et après, j'étais dans une joëlette, donc c'est une sorte de chaise à porteur sur roue, pour avancer à l'intérieur des ruines, parce que les fauteuils sont interdits pour éviter d'abîmer les vestiges. Donc ça, c'était le premier défi. Le deuxième défi, c'était de traverser la Nouvelle-Zélande en tandem, en autonomie. On a un peu revu nos plans sur l'autonomie, mais en tout cas, on était en tandem, on a fait des entraînements sur l'île du Nord, et en fait, sur l'île du Sud, l'idée était de vraiment faire 1000 km sur toute l'île pour atteindre Bluff, donc le port le plus au sud du pays. Et notre tandem est adapté, en fait, Myriam est à l'arrière, donc avec les pédales, le guidon, les vitesses, les freins. Et moi, je suis assis à l'avant, au-dessus de la roue avant, avec les jambes tendues, et au lieu d'avoir comme un vélo couché, les pédales au niveau des pieds, moi, j'ai un mandalier, du coup, parce qu'on mandale quand on est en fauteuil, et du coup, j'ai un mandalier qui est devant ma tête, et du coup, j'accompagne l'effort de Myriam derrière pour qu'on puisse avancer. Il y a une bonne dose de confiance qu'il faut lui accorder, parce que en effet, je suis en premier, et il n'y a pas de pare-brise, et clairement, elle gère tout. Faut quelques temps d'adaptation, clairement, parce qu'on n'avait pas eu le temps de beaucoup le tester avant de partir. Et voilà, et en fait, à chaque fois, donc ces défis nous galvanisent et on réussit autant qu'on peut à les faire. Il se trouve que non, on a été coupé du coup 300 km avant d'arriver au bout de la Nouvelle-Zélande. On est coupé par le Covid et on est confiné en Nouvelle-Zélande. En fonction de chaque sport qu'on découvre, les sensations qu'on a sont complètement différentes. En fait, à chaque fois, étant assis, on est beaucoup plus proche du sol. La sensation de vitesse est beaucoup plus importante. On a testé du fauteuil tout-terrain, donc c'est un fauteuil sur quatre roues avec des suspensions, qu'il soit motorisé ou pas, ça permet d'aller sur des chemins VTT. Et donc, des chemins de descente à fond dans la forêt, clairement, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas possible. Et on a redécouvert le plaisir du kayak aussi, même si on va jamais très droit. En fait, les sensations sont assez folles d'être si proche du sol et de redécouvrir vraiment tout ça. Et en fait, tous les sports sont adaptables. On a fait du char à voile, on a fait du coup du fauteuil tout-terrain, on a fait du vélo. En fait, tout ça existe, mais il y a si peu d'informations. Ou alors, si elle est là, elle est mal renseignée. Il faut vraiment aller creuser sur les sites d'Office du Tourisme pour trouver l'information. Et en fait, c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand une personne en situation de handicap cherche une activité, elle se dit il y a rien, du coup je reste chez moi. Et en fait, c'est le cercle vicieux de se dire la personne qui organise l'activité, il y a personne au fauteuil, je vais pas faire de dépenses pour rendre mon site accessible, etc. Et en fait, c'est ça qui engrange un cercle néfaste et négatif sur le handicap. Alors que justement, quand on va dans d'autres pays, les pays anglo-saxons notamment, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne, en fait, ces pays-là ont une autre vision du handicap, ne se posent pas de questions. Et t'es en fauteuil, très bien, on va faire en sorte d'eux. Aux Pays-Bas, on y était il y a peu de temps et on a fait du bateau électrique accessible. Et du coup, je pouvais piloter. C'est une reprise de liberté totale, en fait. Et plus il y aura d'activités comme ça, plus les gens auront envie de sortir, plus il y aura besoin d'avoir des infrastructures développées là-dessus. Et le cercle vicieux pourra enfin s'arrêter, oui. Clairement, des aventures comme ça, c'est quelque chose que même invalide, je pense, n'imagine même pas de sa vie normale, on va dire. Et non, et aujourd'hui, tous les voyages qu'on fait et qu'on a fait, je pensais pas que c'était possible quand j'étais dans ma chambre en train de me dire « il faut que j'attende que mon omoplate se répare ». En fait, je pensais même pas au lendemain. En fait, je pensais juste au jour le jour. Et je me projetais pas du tout dans une vie en fauteuil à cette époque-là. Ouais. Donc, c'est un vrai pied de nez à cet accident et à ce malheur qu'on a réussi à retourner et à créer une vie nouvelle. Sans cet accident, clairement, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas créé notre association, créé notre entreprise. On n'aurait pas fait autant de voyages, de rencontres. Et clairement, elle n'est pas mieux que celle que j'aurais pu avoir valide, parce qu'on ne sait pas ce qu'elle aurait donné, cette vie de valide. Mais elle est au moins tout aussi bien. Ouais. Finalement, le fauteuil et cet accident nous ont clairement soudés. Tout ça a créé une équipe, et une équipe à deux, et qui est indémontable. On a vécu deux aventures. Du coup, on se dit toujours un peu aventurier parce qu'on découvre plein de choses, mais on a vécu une première aventure qu'on a subie, donc cet attentat, et il y a une deuxième qu'on a choisie qui est de vivre de voyage et dans le monde du handicap de cette manière-là, en fait. Et sans cette première aventure subie, la deuxième n'aurait pas pu voir le jour. Mais clairement, on s'est pas laissé abattre et clairement, tout ce qu'on pouvait prendre, on l'a pris. J'ai bien conscience d'avoir frôlé la mort. La balle est passée à 2 cm du cœur. Tout aurait pu arriver. Depuis 2015, on a beaucoup de chance sur tout, en fait. On n'a jamais utilisé le mot malchance depuis 2015. Et en fait, c'est que de la chance qu'on a, parce que j'aurais pu ne plus avoir mes bras à une vertèbre près. J'aurais pu mourir à 2 cm. Et en fait, sans cet attentat, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'aurait pas fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je pense que le fait de ne se souvenir de rien de ce moment-là a clairement joué beaucoup pour vivre normalement aujourd'hui. En fait, c'est parce qu'il y en a qui ont ceux qui se font amputer, ils ont des membres fantômes. Ceux qui ont vu des choses se souviennent de ce qui a été vu. Et en fait, moi, j'ai mon corps comme il était avant. J'ai pas, en fonction de certaines lésions médulaires, il peut y avoir des jambes qui s'amenuisent en termes de muscles, etc. Et donc, on a un peu comme des brindilles à la place des jambes. Mais moi, c'est pas mon cas. J'ai vraiment tous mes muscles. Et j'ai juste que je suis assis. L'attentat, il a tout changé. Ouais, il nous a permis d'avoir une vie qu'on n'osait pas imaginer. Il nous a permis de nous rapprocher de nos familles, de nos copains, d'être encore plus soudés entre nous deux. Et il nous a donné un nouvel élan dans notre vie, ouais. La liberté de pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, comme on l'entend, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous et qu'on essaie de transmettre aux autres. Et on l'a encore revécu l'été dernier, parce que pendant le tour du monde, du coup, on avait un défi en Afrique qui était prévu, qui était l'ascension du Kilimandjaro. Et en fait, cette ascension, du coup, à cause du Covid, on l'a décalé de 2 ans, et en se disant, c'est quand même un peu mieux d'avoir une préparation physique après les confinements et les coquilles. Et en fait, on prépare cette ascension pendant 6 mois, de février à fin juin, avec 60 séances de crossfit jusqu'à 4 fois par semaine pour se remettre en forme et en se disant on va pouvoir faire cette ascension à 3, donc avec Nicolas, notre associé et photographe. Et en arrivant sur place, on a tout, on a le matériel, on a tout ce qu'il faut. Et la veille de l'ascension, on va faire un test avec le guide et 2 assistants guides. Et en fait, ils sont pas habitués à pousser le fauteuil et ils savent pas très bien comment faire. Et en fait, en forçant un peu trop, on casse une roue avant du fauteuil. Moi, je crève sur les 2 roues arrière. Donc on part très mal pour le lendemain quand même. Et en fait, il y a toujours des solutions dans ces pays-là. Donc le fauteuil est réparé dans la nuit. Et le lendemain, quand on part, on se dit, on va partir à 3, ça va être très bien, il y aura les porteurs qui vont nous accompagner. Et en fait, au bout de 2 heures, on arrive dans la forêt. Et dans la forêt, en fait, il nous avait dit des escaliers. Et clairement, des escaliers, c'est pas comme des escaliers européens avec des marches. C'est des escaliers un peu type Inca, donc avec des cailloux dans n'importe quel sens, des racines, des rondins, des marches dans la forêt de 70 cm de haut, voire 1 mètre. Et clairement, à bout de 2 heures, en fait, les porteurs ont pris le relais et c'est eux qui m'ont. Moi, je poussais en même temps sur le fauteuil, mais eux portaient beaucoup le fauteuil, tiraient par-dessus les rondins, par-dessus les cailloux, etc. Donc, des étapes qui devaient durer 6 heures duraient plutôt entre 8 et 10. Ça a clairement été l'aventure d'une vie et on s'est arrêté dans un pierrier qui est juste avant le premier sommet du Kilimandjaro, parce que le Kilimandjaro du coup culmine à 5895 mètres d'altitude et nous on s'arrête à 5566 mètres, donc un petit peu en dessous. La décision de s'arrêter a été évidemment très dure, si proche du but. On a préféré miser sur la sécurité de tout le monde et notamment des porteurs, parce qu'ils étaient quand même pas à la base prévus pour porter autant. On voulait absolument pas leur casser une cheville ou une jambe juste pour se disant on veut arriver en haut. Mais aujourd'hui, on est très très fiers d'être arrivés là, et clairement c'est on pensait pas en arriver là déjà. Et non, et clairement de se dire qu'on est monté quasiment sur le toit de l'Afrique, c'est très fort, ouais. Dans les prochains projets, il y en a un qui est en cours au moment de cette diffusion. On est en train de longer le canal des deux mers entre Bordeaux et Toulouse à vélo. C'est un projet avec l'Office du tourisme de France, du coup, pour mettre en avant que le vélo est accessible aussi le long du canal des deux mers. Et ensuite, en septembre prochain, on a un gros projet qui est de partir au Canada, cette fois-ci en allant dans la nature. On retourne la situation en travaillant du coup avec différents offices de tourisme pour justement montrer que le Canada est accessible en pleine nature et pas uniquement les villes. Et on y va à la période des couleurs d'automne, donc ça va être très sympa. Et ensuite, on part en reconnaissance avec l'équipe du Half Marathon des Sables, donc une course dans le désert au Maroc. On part avec eux pendant une semaine mi-octobre pour voir un petit peu est-ce que le Marathon des Sables marocain est faisable en fauteuil roulant ou pas. Donc on part en reconnaissance pendant une semaine, tester tout ça. Pousser le fauteuil dans le sable, c'est quelque chose qui est absolument horrible à faire. Comme pédaler dans du sable, c'est un enfer, on galère un peu. Mais voilà, en fait, on a développé plein de systèmes. Donc là, on aura un fauteuil un peu différent de celui que j'ai aujourd'hui, qui a 3 grosses roues, etc. Et ensuite, on a, dans un bon système D, on a trouvé un harnais d'expédition polaire qui, normalement, est utilisé par des gars comme Mike Horn, qui leur permet en fait de tirer leur grosse luge d'équipement et je deviens la luge et il y a une personne devant avec des cordes qui tire et une personne qui pousse. De ne pas aller au procès, ça coulait de sens pour nous, parce qu'en 2021, nous, on a beaucoup travaillé sur avec notre entreprise, etc. Et en fait, on avait complètement la tête ailleurs et on n'avait pas du tout envie de se replonger là-dedans. Et on avait notre avocat qui nous a représentés, parce que c'était quand même important d'être représenté là-dedans en partie civile. Le procès devait avoir lieu, mais pour nous, son issue ne changeait rien à ce qui s'est passé et à ce qu'on a fait de notre vie aujourd'hui. Dans notre vie, tous les deux, dans les projets, évidemment, on parle enfants entre nous, etc. Mais pour l'instant, on se laisse quand même un petit peu de temps avec tous ces projets qui nous trottent dans la tête, où justement, on ne sait pas encore comment l'ajout d'un petit babe pourra se faire, mais il se fera. On continuera de voyager comme ça, mais c'est vrai que ce sera une autre situation, d'autres questions qui arriveront en temps et en heure.
Merci à Hélène Petiot qui a réalisé cet épisode et merci à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous avez aimé Les Rescapés, aidez-nous, parlez de nous autour de vous, mettez-nous des commentaires, sympas tant qu'à faire, et des étoiles, merci beaucoup.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.